Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Jérôme Chapuis.
Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Au budget, vous êtes en effet le ministre qui serre les vis. Merci d'être sur RTL ce matin. Vous confirmez avoir trouvé 4,5 milliards d'économies supplémentaires pour tenir la promesse des 3% de déficit en 2017 ?
Oui, le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de trouver effectivement entre 4 et 5 milliards d'euros suite au rapport de la Cour des comptes qui était alarmant, des sous-budgétisations, des sous-recettes, des coûts partis qui n'étaient pas prévus, si j'ose dire, comme la recapitalisation d'Areva. Et donc nous avons trouvé 4,5 milliards d'euros que je détaille ce matin.
Pour arriver aux 3%, 3% ni plus ni moins de l'objectif.
Non mais bien sûr, on va tenir la parole de la France, parce que quand on est patriote, on aime tenir la parole de la France. Mais on ne tient pas les 3% pour Bruxelles, on ne tient pas les 3% pour vous-même, si je puis me permettre, pour le chiffre des 3%. On tient pour le fait qu'on doit réduire un déficit qui, depuis 2008, a toujours été au-dessus des 3% et un budget qui est en déséquilibre depuis 1974.
Ce serait un drame d'être à 3,1% ou 3,2%?
Mais ce qui est un drame, c'est de continuer d'augmenter le déficit, de mentir quand on est en responsabilité politique face au Parlement, face à la Commission européenne, face aux médias, face aux Français, et de continuer à expliquer qu'on peut laisser filer des déficits, que ça n'a pas de conséquences, alors que plus de déficit, c'est plus de dette, plus de dette, c'est plus d'impôts.
Vous dites que ce n'est pas pour Bruxelles, mais quand même Emmanuel Macron, l'Européen, qui veut être en premier en ligne pour redonner de la force à l'Europe, pour être crédible, il doit bien se soumettre à la discipline budgétaire.
Alors la France ne se soumet pas, le président de la République ne se soumet pas. Je voudrais simplement dire que nous avons des engagements, et même si nous n'étions pas dans des traités européens, nous devrions limiter notre déficit. Parce que quand
c'est
on
pas
a...
une question de crédibilité quand même, vis-à-vis de Bruxelles. Il n'y a pas aussi ça.
Non mais la crédibilité, c'est quand par trois fois la France dit « oui, promis, je vais faire 3% » et que chaque année elle revient et dit « non, je ne peux pas les faire ». Ça, c'est pas crédible. La France, elle a su dire à la Commission européenne, au Parlement français, aux Français, voilà, je vais dépasser mes déficits parce que, par exemple, je fais un plan de relance. Mais quand les autres pays, au moment de la sortie de la crise économique, je pense à l'Allemagne, avaient la même dette que nous, a parfois fait de la relance, elle est redevenue une dette normale, 65-66% pour l'Allemagne, alors que nous, nous avons augmenté notre dette de 30 points de différence, alors que nous avons eu la même dette que l'Allemagne. Donc, trop de déficit, c'est trop de dette. Trop de dettes, c'est, tout le monde peut le comprendre, trop d'intérêts pour payer cette dette, qui est aujourd'hui le budget, le deuxième budget de l'État, devant celui de la Défense. Et à la fin, ça fait plus d'impôts. Puisqu'on veut réduire les impôts pour relancer le pouvoir d'achat des Français, pour aider les entreprises à créer de l'emploi, nous devons baisser notre déficit.
Alors pour être dans l'épure de ces 3%, donc vous trouvez 4,5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Est-ce que, par exemple, des recrutements dans la fonction publique ont été différés ?
Non. Ce que je souhaite vous dire, c'est que lorsqu'on a construit le budget 2017, sous l'ancien gouvernement et l'ancien Parlement, il y avait 7 milliards de différence quand la Cour des comptes l'a constaté et le budget. Le budget a dérivé de 7 milliards. Nous ne baissons pas le budget 2017. Nous diminuons la hausse, la dérive de ces 7 milliards. Donc sur ces 7 milliards, nous ne dépenserons donc que 2,5 milliards de plus que le budget 2017. Tout le monde voit que ce n'est pas de la rigueur.
Alors vous renoncez donc à des dépenses.
Ce n'est pas de la rigueur, c'est simplement être rigoureux.
Vous renoncez à des dépenses, uniquement...
Alors quand on fait des économies, en effet, chaque Français peut le comprendre qu'on renonce à des dépenses.
Vous renoncez à des dépenses prévues d'ici à la fin de l'année.
Nous avons demandé à chacun des ministères de voir quels sont les crédits qui, au milieu de l'année, pouvaient être économisés sans remettre en cause le service public.
Par exemple, la réinstauration du jour de carence, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour l'an prochain.
Alors c'est effectivement pour l'année prochaine, mais par exemple, l'ancien gouvernement avait consommé 70% de l'enveloppe pour les contrats aidés en 4 mois et demi, c'est-à-dire 190 000 contrats. Avec Madame la ministre du Travail, nous avons décidé de mettre en place que 110 000 contrats aidés pour ces derniers mois d'ici la fin de l'année.
Alors, vous prenez plus ou moins un peu partout. Vous faites un petit coup de rabot partout.
Alors, c'est le contraire du rabot. Le rabot, c'est moins 3, moins 5% partout et on ne discute pas. Au contraire, nous avons vu ministère par ministère, là, on pouvait faire des économies. Parce qu'en face, il y avait aussi des dépenses à ouvrir. Moi, je voudrais dire que je suis très sensible à l'électorat populaire, aux demandes populaires. Il n'y avait plus de crédit pour l'hébergement d'urgence de cet hiver. Il n'y en avait plus. Ce n'était pas budgétisé. Il n'y avait pas la possibilité de payer l'intégralité de l'allocation adulte handicapé d'ici la fin de l'année. Donc il fallait trouver des économies, et ces économies permettent notamment de faire face à ces prestations. Je voudrais dire aussi que nous avons fait 4,5 milliards d'économies sans toucher aux collectivités locales, sans toucher à la sécurité sociale, sans toucher aux minima sociaux.
Ça, ce sont les lignes rouges.
C'est-à-dire que c'est le budget de l'État, c'est l'État lui-même qui a fait des économies. Quand le président de la République nous a demandé de diviser au moins par deux le nombre de collaborateurs dans les cabinets. C'est 30 millions d'euros d'économies. Les services du Premier ministre, exactement. Les services du Premier ministre, Édouard Philippe en premier, a proposé 60 millions d'euros d'économies dans le fonctionnement de Matignon.
Sur les voitures, sur là vous parlez des collaborateurs, sur quoi ?
Oui, exactement, sur le fonctionnement, sur le train de vie des ministères et de l'État. Juste vous dire qu'on ne peut plus continuer avec 57% de dépenses publiques. Ce n'est plus possible.
Ouais. On va revenir, enfin, on reste plutôt sur le détail de ces 4,5 milliards. J'ai calculé 850 millions économisés à la défense, 530 à l'intérieur, 160 à la justice. Ça fait 1,5 milliard à peu près sur ces trois ministères sensibles. Vous reniez sur la sécurité des Français ?
Absolument pas. Nous avons travaillé avec monsieur le ministre de l'Intérieur, madame la ministre de la Justice, madame la ministre des Armées pour trouver des économies.
850 millions à la défense. On peut, dans la période, trouver cette économie sans fragiliser la protection des Français.
Mais le budget 2017 de la défense ne bougera pas. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'économie sur le budget voté par le Parlement. En revanche, nous allons...
Ça n'a pas l'air si simple, puisque Florence Parly a annulé un déplacement aujourd'hui prévu à Mont-de-Marsan dans les Landes. On l'a appris ce matin. Les inquiétudes de la défense portent sur la fin de l'année 2017 en matière de budget. En raison de négociations budgétaires douloureuses, elle reste à Paris.
Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que j'avais prévu déjà depuis un certain temps de voir la
si
ministre des Armées.
C'est pas aussi serein non, que ça
mais
semble.
C'est
l'être
tout à fait
défense.
Serein. Les opérations extérieures seront financées. Les soldats auront les équipements nécessaires, ce qui était d'ailleurs pas tout à fait prévu à la fin de cet exercice budgétaire. Ce qui est certain, c'est que chacun va faire des économies et le budget de la défense va connaître, selon le projet du président de la République, une augmentation de crédit dans la loi de finances 2018. Vous savez. Je comprends que
confirmer
chacun...
Confirmer l'objectif des 2% d'ici
bien sûr,
à la fin
mais évidemment, nous tiendrons toutes les promesses du président de la République. Et parmi les promesses du président de la République, il y a la baisse de la fiscalité pour les ménages, parce que les Français n'en peuvent plus de payer des impôts, et la baisse de la fiscalité pour les entreprises. Et bien pour baisser les impôts, il faut faire des économies. Chacun doit comprendre que faire des économies, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir patriotique, parce qu'on ne peut plus être le pays en Europe qui dépense le plus d'argent public.
Alors vous dites, ce ne sont pas des coups de rabot, mais c'est quand même une façon d'aller chercher des économies un peu partout. Il en faudra plus l'an prochain pour réaliser les économies substantielles auxquelles le gouvernement va s'engager. Est-ce qu'il faut redéfinir, est-ce que vous allez redéfinir le périmètre des missions de l'État et confier par exemple au privé certaines missions qui sont aujourd'hui assurées par le public ?
Alors il faudra en effet faire plus d'économies l'année prochaine. Cette année nous avons fait une économie en gestion. Aucun gouvernement n'a jamais fait 4,5 milliards d'économies dans l'année. Donc l'année prochaine évidemment il faudra faire plus d'économies.
Il est habitué à faire plusieurs milliards d'économies en fin d'année.
Il est habitué à faire 2,5 milliards d'économies au mois de novembre, c'est-à-dire qu'il pousse ses factures au mois de janvier. Voilà. Donc quand on fait au mois de juillet, vous avez la possibilité d'arrêter de faire des dépenses. L'année prochaine, il faudra effectivement faire des réformes de structure que nous préparons aujourd'hui. Le président de la République les a évoquées dans sa campagne électorale, mais tous les Français, tous les politiques connaissent ces réformes de structure qu'il faut faire. Nous les ferons afin structurellement de faire des économies.
Par exemple, les aides au logement.
La politique de formation et d'emploi, la question du logement. Toutes les thématiques, si vous voulez, de la politique publique sont sans doute à revoir.
Les dépenses de santé.
Afin de moins dépenser.
Un mot maintenant, parce qu'il nous reste.
Mais sur les dépenses
minutes,
de santé, chaque citoyen peut contribuer à effectivement diminuer ses dépenses. Quand on prend un générique plutôt qu'un médicament de marque, si j'ose dire, on contribue à faire baisser la dépense publique.
Alors, Gérald Darmanin, zigzag, quoi, cacophonie, revirement, quel mot vous préférez-vous pour qualifier les annonces du gouvernement sur les impôts ces derniers jours ?
Mais il n'y a pas d'annonce du gouvernement. Il y a eu un discours de politique générale du Premier ministre qui a annoncé qu'il allait avoir un calendrier qui va être évoqué. Je pense que le Premier ministre le fera dans les prochains jours, notamment dans le cadre de la loi de finances. Nous ferons toutes les baisses d'impôts annoncées par le président de la République.
Permettez, Édouard Philippe, dans son discours de politique générale, par exemple, a décalé à 2019 le démarrage de la réforme de l'ISF. Et aujourd'hui, on nous dit, source Matignon, qu'effectivement, ce sera dès 2018. Donc,
plutôt que faire des annonces,
est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction, parce que ça fait cinq semaines que nous sommes en responsabilité.
Ça s'appelle l'évolution du discours.
Vous constatez, non, je ne suis pas d'accord. Vous constatez, quand vous arrivez en responsabilité, qu'il manque 8 milliards dans les caisses de l'État, qu'il y a effectivement une fiscalité, celle promise par le président de la République, à appliquer, et qu'il faut à la fois être responsable et tenir ses promesses. Moi, préfère faire des économies.
C'est Bruno Le Maire qui a fait des annonces.
Faire des économies. Je crois que Bruno Le Maire, comme chacun des membres du gouvernement, est tout à fait sous l'autorité du Premier ministre, attend que le Premier ministre donne la feuille de route.
Alors ça, c'est
conformément à la volonté du président de la République.
Il s'est passé quelque chose mardi dernier. Il y a eu des annonces qui sont aujourd'hui revisitées, corrigées.
J'ai bien écouté le discours du Premier ministre. Je n'ai pas vu en quoi, puisque je suis ministre des Comptes publics et j'assiste aux arbitrages, il y avait un changement fondamental dans ce qu'il a dit aux parlementaires et ce qui va s'appliquer dans les prochains jours, il y aura la baisse promise des impôts par le Premier ministre. Pardon, Madame Martichoux. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des annonces, c'est de faire des économies.
C'est une belle langue de bois, quand même, sur ce sujet. Vous ne reconnaissez pas l'évidence, mais on en prend acte. Gérald Darmanin, vous êtes ministre du Budget. Et par ailleurs, est-ce que vous attendez à être exclu de votre parti ce soir ?
Ah, je ne le crois pas. Quelle raison m'exclure ? Je veux rétablir le jour de carence. Je crois que la droite l'a proposé depuis un certain temps. Je fais des économies, je vais contribuer à baisser les impôts. Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le Trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le Trocadéro. Moi, je ne crois pas que mon parti politique ira jusqu'à là. Vous savez, moi, j'ai adhéré au RPR, j'avais 16 ans. Je croyais au gaullisme, et notamment le gaullisme, c'est de savoir choisir entre une candidate d'extrême droite et un candidat républicain. Le candidat républicain, c'est pas ce qu'a fait le bureau politique des Républicains, malheureusement.
Vous ne pensez pas que votre parti ira jusque-là ce soir ?
Bah, je ne crois pas qu'ils y vont persévérer dans l'erreur. Vous savez, on dit que l'erreur est humaine et que persévérer est diabolique.
Persévérare diabolicum.
Exactement.
Errare humanum est. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Merci. Merci à tous les deux. Cet entretien est à réécouter comme toujours sur rtl.fr.